Vous écoutez
RMC.
Courbis, on vous attend au 32-16. Les quarts de finale de Ligue des Champions vont démarrer dans une demi-heure sur RMC. De belles affiches. Le match entre Arsenal et le Bayern avec Edgar Grollo dans un instant. Le match entre le Real Madrid et Manchester City. Avant de replonger en Ligue des Champions, il y a la finale de l'Eurocup de basket qui se joue ce soir avec deux clubs français en finale. Et c'est Arnaud Valadon qui nous fait vivre le match entre le Paris Basketball et Bourg. Salut Arnaud.
C'est super.
Salut
ça,
messieurs.
Ouais, c'est beau quand même.
C'est un bel événement.
Bah,
et oui. Et le gagnant se verra normalement invité en Euroleague rejoindre Monaco et l'Asvel, donc il y a quand même aussi un fort enjeu pour cet équivalent de l'Europa League, hein. Voilà, l'Eurocup Paris qui joue dans sa nouvelle salle de la Porte de la Chapelle, l'Adidas Arena, et pour la première fois elle est pleine, 8000 spectateurs. On veut créer un engouement à Paris pour s'imposer vraiment comme un club phare, et l'entre-deux vient de démarrer donc entre les deux formations françaises. Elles se sont déjà jouées une seule fois en championnat et c'est Bourg qui s'était imposé à la maison. C'est au meilleur des trois matchs, donc match 1 ce soir à Paris, match 2 qui sera déjà décisif vendredi à Bourg, et si besoin, match d'appui lundi prochain.
Merci Arnaud, on verra de voir bien sûr pour voir ce qui se passe.
Le basket fait comme le rugby en fait, ils font des finales européennes avec deux clubs français.
Pourquoi pas, voilà. Déjà qu'en foot on n'y a pas droit. Sachez qu'il reste 20 minutes à jouer entre l'équipe de France féminine et la Suède, deuxième journée des qualifs pour l'Euro. 0-0 entre eux, la Suède et la France. À 21h, quart de finale de Ligue des Champions, Arsenal-Bayern et Real City. Julien Laurence nous a rejoint
ce
soir.
Frérot.
Comment il va le frérot?
Salut Monico, salut à tous.
Salut.
Ça va le frérot?
Super frérot, super.
Alors ça va mieux que Walker et Ake qui sont absents à City ce soir. Alors mine de rien, Walker c'est le troisième joueur le plus utilisé par Guardiola cette saison.
Ah ouais.
Alors c'est lui qui devait surveiller Vinicius ce soir, hein. Guardiola qui disait hier, bah ouais, il s'est blessé lors d'un match amical, mais bon c'est comme ça, il faut faire sans. Est-ce qu'on est inquiet face à ces blessures à City, Ju?
On a un petit peu, surtout pour Walker, Ake un petit peu moins, Ederson n'est pas là non plus dans les buts, hein. C'est aussi, même si Ortega est un bon gardien, c'est pas du niveau d'Ederson non plus, mais c'est vrai que c'est surtout par rapport à Walker et par rapport au duel contre Vinicius, lui qui avait été tellement bon lors du match retour la saison dernière, rappelez-vous le 4-0 où City avait complètement étouffé et dominé cette équipe du Real Madrid à l'Etihad surtout, et la vitesse de Kyle Walker avait permis d'annihiler le peu de début de contre-attaque que le Real Madrid avait pu essayer de mettre en place. Ce soir, il y aura pas Walker, ce sera Akanji, je pense, qui va jouer côté droit. Dans cette défense-là, c'est pas la même vitesse que Walker, c'est pas la même expérience non plus. C'est peut-être un petit peu plus intelligent, ça c'est sûr, et meilleur avec le ballon peut-être aussi, mais ça a d'autres qualités qu'un Walker. Ça fera peut-être les affaires du Real, sûrement, si tu es Carlo Ancelotti, je pense que sans Walker, tu insistes encore plus que d'habitude, c'est déjà beaucoup, mais encore plus que d'habitude sur le côté de Vinicius et ce triangle avec Kamavinga et Bellingham. Mais c'est vrai que l'absence de Walker plus qu'Ake et Ederson, c'est vraiment celle qui va poser problème à City ce soir.
Alors Aurélien Tersin nous a donné le 11 tout à l'heure de Pep Guardiola pour ce match face au Real. De Bruyne sur le banc, De Bruyne remplaçant, ça t'étonne ou pas toi?
Ça m'étonne pas. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ont écouté l'émission hier soir avec les drôles de dames, on avait déjà parlé un petit peu de ce débat, même si je pensais vraiment, et d'ailleurs je l'ai dit, que les deux allaient débuter, qu'il allait décaler Foden sur un côté et mettre De Bruyne en 10. Ce débat du numéro 10 entre De Bruyne et Foden, ça fait maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on en parle un petit peu en Angleterre aussi, nous dans les émissions, sur le fait que par exemple sur les deux derniers matchs de championnat, on a vu une fois Foden être titulaire et être très bon, De Bruyne sur le banc, la fois d'après De Bruyne titulaire et être très bon, Foden sur le banc, et même De Bruyne lui-même expliquait que Guardiola n'aime pas les faire jouer ensemble en tant que numéro 10, qu'on n'avait jamais vraiment vu ça pour l'instant. Donc c'était possible dans l'esprit de Guardiola qu'il choisisse l'un ou l'autre en tant que numéro 10 et qu'il décale personne finalement. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Moi, je ne suis pas surpris personnellement, même si ça peut être surprenant quand tu vois un Kevin De Bruyne sur le banc pour un match pareil. Le problème, si tu mets De Bruyne sur le banc et que tu décales pas Foden sur un côté, c'est l'équilibre de ton équipe finalement. Ouais. Que ce soit en possession ou à la perte du ballon, coach, face aux transitions offensives du Real dont on a parlé, cette vitesse, cette verticalité pour aller très vite chercher Vinicius. Si t'as Foden sur un côté, tu perds beaucoup de ce contrôle-là. Alors que si t'as un Bernardo Silva d'un côté, lui, il va te permettre d'avoir une assise défensive à la perte du ballon beaucoup plus intéressante que Foden, par exemple.
C'est toujours intéressant ce que tu nous dis avec tous ces détails. Moi, je change pas aussi ma vision des choses. Bon, ben De Bruyne ne démarre pas, il sera titulaire dans la deuxième partie du match.
Ouais. C'est vrai que c'est une possibilité, bien sûr. On reste dans le secteur défensif. On évoquait tout à l'heure les absences de Walker et de Hakimi. Avec le dossier du gardien, Ederson revient de blessure. Hier, en conf, Guardiola laissait planer le doute, hein, le mystère sur le titulaire dans les buts ce soir. Et finalement, c'est bien Stéphane Ortega qui est là. Alors, parle-nous de ce gardien hispano-allemand de 31 ans qui fait le taf, hein, d'ailleurs, depuis qu'Ederson est absent. Gundogan disait sur les réseaux sociaux, là, après le match contre Palace, c'est le gardien le plus sous-estimé dans le monde, ce Stéphane Ortega.
Oui, ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont vu le match de Palace, il y a un moment où Ruben Dias, Rodri lui met un ballon galère dans ses 6 mètres. Ouais. Et il fait une petite talonnade derrière la jambe d'appui, tranquille devant Mateta, alors que tout le monde transpirait dans le stade côté City. Et, bah, au pied, dans le jeu au pied, dans les relances, dans cette aisance technique-là, il est vraiment super fort. Après, c'est pas un mauvais gardien sur sa ligne non plus, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il est là pour être gardien de but et pas pour être
libéro,
pas pour être joueur de champ. Voilà, mais chez Guardiola, tu sais très bien que le gardien, c'est avant tout un joueur de champ plus qu'autre chose. Donc pour ça, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi d'ailleurs, hein. Ils sont allés le chercher quand ils sont allés le chercher à Bielefeld. Il y a pas beaucoup de gens en Angleterre, je peux te le dire, qui avaient entendu parler de Stéphane Ortega, hein, c'est vrai. Mais ils l'ont, parce que la data et toutes les stats au niveau distribution, passe, relance de derrière, etc. C'était vraiment très bon.
C'est toujours la priorité de Guardiola, ça, Julien, de prendre un gardien, ouais, qui est capable de jouer court, long, avec précision.
Ouais, avec précision, qui finalement on pourrait le voir. Alors ce soir peut-être pas trop à l'extérieur au Bernabeu, en plus c'est peut-être un petit peu compliqué, mais à l'Etihad la semaine prochaine, ouais, on l'a vu en championnat contre Palace par exemple. En fait, il devient un deuxième défenseur central avec le ballon. Ouais. Un des trois centraux décroche, il y a lui et Ortega sur la même ligne quasiment pour faire repartir le ballon, et t'as les deux de côté et ton autre défenseur qui vient s'intercaler au terrain,
Exactement. Alors on bascule aux attaquants. Alors la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que ce soir sera-t-il enfin celui d'Erling Haaland. Souvent, on lui reproche d'être absent dans les grands rendez-vous. Alors, il y a une étude, hein, Opta, qui a été faite. Face au top 5 de Première Ligue cette saison, il a marqué qu'un seul but, Erling Haaland. Et nous, on a regardé ses stats en Ligue des Champions. Vous savez qu'Haaland, il a marqué plus de buts qu'il a disputé de matchs de Ligue des Champions. 41 buts en 37 matchs. Sauf que quand on regarde, à partir de quart de finale, il a joué 7 matchs, il a marqué que 2 buts. C'était en quart de finale, justement, Erling Haaland. C'est vrai qu'on a quand même l'impression, Julien, ouais, qu'il y a une espèce de...
Est-ce qu'on est sûr de bien regarder?
Alors vas-y, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, pourquoi on est dans une période avec les stades que tu as même dit, qui Opta, exactement, ouais, etc., etc. Et donc, moi, j'ai une vision différente, mais ça veut pas dire que c'est la bonne, hein, c'est la mienne. Quand je regarde ce joueur-là que j'aurais rêvé quand j'étais entraîneur d'avoir dans mon équipe, mais je regarde pas ses stats au nombre de buts marqués contre le niveau de l'adversaire qui est un niveau moyen ou très moyen ou très bon et tout. Je regarde les buts marqués par son équipe grâce à sa présence. Et ben ça, dans les stats, je ne l'ai pas ce résultat. Mais à partir de ce soir, je vais essayer de vous, enfin, pas de vous aider, ça serait prétentieux, mais essayer de vous faire changer la vision des choses en regardant Haaland quand il est responsable d'un but de son équipe grâce à sa présence, grâce au fait que il y a deux voire trois joueurs sur lui, et que ça facilite les autres. Et là, le seul résultat qu'on a, c'est qu'on compte les buts que marque.
Ça peut être une passe décisive, le fait qu'il attire des joueurs.
On va changer, on va inventer un truc. Une présence décisive.
Tu réponds quoi, Julien? Ça, t'es d'accord avec Roland, ou est-ce qu'il passe vraiment à côté des gros matchs?
Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure chez Roten aussi, parce qu'on s'était Roten était le procureur, on fait comme ça le tribunal de justice, ou je sais plus comment il l'appelle, sur Haaland justement, et Jérôme a juste dit aussi parce que
c'est le procès de l'after.
Le procès de Roten Templin, pardon. Et en fait, les deux sont valables. Ce que dit le coach, c'est tout à fait valable, et c'est exactement comme ça que j'ai défendu Haaland tout à l'heure, en disant qu'il fait peur aux défenseurs adverses. Donc souvent ils sont deux sur lui. Par exemple, si vous vous rappelez du but de Rodri contre le Bayern la saison dernière, c'est lui qui crée l'espace pour que Rodri puisse venir s'intercaler au 18 mètres et frapper dans la lucarne. Le but de De Bruyne contre le Real au match aller la saison dernière, pareil, la présence d'Haaland fait que il peut s'avancer, il peut frapper. C'est ça aussi qui compte, comme le dit le coach très très bien. Après, l'autre côté, celui de Jérôme tout à l'heure, c'était qu'effectivement, il devrait quand même marquer plus. Au match retour la saison dernière, quand ils détruisent le Real 4-0, il a deux énormes occasions qu'il aurait dû marquer et qu'il ne marque pas. Donc oui, il devrait être plus efficace dans ces matchs-là. Mais oui, il fait quand même beaucoup de bien à son équipe, même s'il n'est pas décisif en termes de stats, passes ou passes des ou trucs comme ça, expected goals, expected assists, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que par sa présence, il permet quand même à son équipe de voilà de d'être porte. Et comme le disait Jean-Michel Larquet dans l'émission tout à l'heure aussi, il disait mais avant qu'il soit là, ils avaient jamais gagné la Ligue des Champions. Il arrive, il gagne le triplé. Donc à un moment, c'est quand même pas anodin non plus.
C'est pas une coïncidence. Ouais.
Voilà. Tiens, à vous dire que les Bleus viennent de marquer face à la Suède dans les qualifs pour l'Euro féminin. Ils mènent 1-0 en Suède à Göteborg.